Bonjour, c'est toujours avec le même plaisir que les messagers du cheval vous retrouvent aujourd'hui pour une nouvelle chronique consacrée à celui qui, dit-on, est la plus belle conquête de l'homme, le cheval. Une émission proposée par Virginie Bauer.
Bonjour Michel, bonjour à tous.
Et Michel Clément, tous les mercredis et les samedis sur CFM Rodez et CFM Villefranche de Rouergue. Nous avons intitulé cette émission, cette reprise de nos émissions, Virginie, hein, que nous avons nommée « À la rencontre des licornes ». Le musée de Cluny à Paris accueille jusqu'en février 2019 une exposition intitulée « Magique licorne ». Elle est consacrée à cet animal mythique dont l'apparence est aujourd'hui associée à celle d'un cheval blanc avec une corne sur le front. C'est une description qui va s'imposer dès le XVe siècle et c'est pour cela que nous nous intéressons à elle aujourd'hui dans le cadre de cette émission. Cela n'a pas toujours été le cas.
Non, Michel, si aujourd'hui nous pensons à la licorne comme un cheval, dès l'Antiquité, hein, les écrits évoquent des animaux, je dis bien des animaux, à la longue corne unique. Alors, ces animaux ont plusieurs formes. Marco Polo, par exemple, décrira ce qu'il appelle une licorne comme tenant plus du rhinocéros que du cheval. Mais dans la plupart des récits, les licornes qui sont mentionnées semble avoir pour berceau l'Inde. Et ainsi, les textes grecs évoquent l'existence d'un animal unicorne dans ces parages. Le médecin grec Ctésias, dans son histoire de l'Inde, donne même une description de cette licorne. Je te lis, Michel, « Des ânes sauvages de la grandeur des chevaux et même de plus grands encore. Ils ont le corps blanc, la tête couleur de pourpre, les yeux bleuâtres, une corne au front longue d'une coudée. La partie inférieure de cette corne, en partant du front et en remontant jusqu'à deux palmes, est entièrement blanche. Celle du milieu est noire. La supérieure est pourpre d'un beau rouge et se termine en pointe. » On rend bien la compte que nous sommes un peu loin de la licorne contemporaine, si
absolument,
on peut dire.
Absolument, absolument. Mais bon, c'est, comment dirais-je, cette façon d'enjoliver les choses, surtout les choses mystérieuses, bien évidemment.
Alors, cet âne cornu, puisqu'il s'agit d'un âne des Indes, est également évoqué par Aristote 100 ans plus tard. Donc, à l'époque de Ctésias, nous étions en moins 400 avant notre ère. Avec Aristote, nous sommes 100 ans plus tard et il parle également de cet âne cornu. En remontant encore le temps, le grec Métasthène, qui fut ambassadeur à la cour du roi des Indes, décrit également dans son livre Indica, vers moins 300, des animaux unicornes, qu'il désigne comme étant des chevaux à tête de cerf surmontés d'une seule corne. Et il ajoute que celle-ci est utilisée comme remède contre les poisons que l'on trouve dans les régions sauvages de l'Inde. Quant à Marco Polo, toujours lui, il évoque un autre type de licorne qui descendrait d'une race éteinte de chevaux à cornes, une corne toujours en Inde, et ces chevaux seraient les descendants du fameux bucéphale, Michel, le cheval d'Alexandre le Grand. Donc ça, c'est soi-disant ce qu'ils ont vu. Alors, d'autres explorateurs, on continue, on avance dans le temps, comme le chanoine Mayence Bernhard von Bredenbach raconte avoir vu une licorne dans le désert du Sinaï dans les années 480. Et en 1503, un autre explorateur, Ludovico de Vertema, assure en avoir vu deux dans un enclos à la Mecque qui aurait été offerte au sultan par un roi d'Éthiopie. Et Michel, les descriptions continuent à abonder comme cela pendant un siècle. Alors, il faut savoir que cette licorne, même si elle a un corps de cheval, on lui prête également des sabots fendus et une barbichette.
Et c'est ainsi qu'elle est représentée sur les célèbres tapisseries du musée de Cluny, dites, et puis alors là, bien sûr, on la connaît, la fameuse dame à la licorne, n'est-ce pas?
Tout à fait, Michel. Avec ces tapisseries tissées vers 1500, nous entrons dans le champ de la représentation picturale. C'est important parce qu'avant, ce sont des écrits, il n'y a pas de dessin. Tout est consigné dans les livres. À partir du Moyen-Âge, on représente la licorne. Cette représentation de la licorne est vraiment liée au Moyen-Âge.
Et c'est à cette époque que lui vient son nom?
Alors, le mot licorne apparaît en 1349-1350. Il viendrait de l'italien alicorno, qui est lui-même une altération du nom latin unicornis, unicorne. Oui. D'autres interprétations lui donnent comme origine le mot arabe al-icorno.
Ce qui est très proche, en fait. Hein,
absolument.
Ça se touche. Et est-ce que ces licornes sont aperçues au Moyen-Âge comme celles décrites par les explorateurs dont tu viens de nous parler précédemment?
Oui et non, Michel. Alors, dans les récits anciens, la licorne était parfois évoquée comme un animal agressif, voire chez certains qui pouvaient se nourrir de chair humaine, et dont les pieds sont tranchants et la corne coupante. Par contre, déjà, on parle du pouvoir curatif de sa corne, c'est un point qu'on va retrouver au Moyen-Âge, et de l'impossibilité de la capturer, sauf à l'attirer par le biais d'une jeune fille vierge. À nouveau, ces deux points sont les attributs fondamentaux que l'on donne à la licorne au Moyen-Âge. À cette époque, donc au Moyen-Âge, elle devient un animal associé à la pureté, à la chasteté, du fait que seules les jeunes filles vierges peuvent l'approcher. Sa robe est blanche, un autre symbole de pureté.
Voilà, oui.
C'est pour ça qu'elle est souvent représentée aux côtés de la Vierge Marie, la mère du Christ, notamment sur les représentations de l'Annonciation, c'est-à-dire le moment où celle-ci apprend qu'elle porte le Fils de Dieu. Et d'ailleurs, le Christ est symbolisé par la licorne. Par ailleurs, sa représentation diffère selon les pays. Les licornes italiennes ont un poil long, une teinte brune claire, une corne parfois très courte et ressemblent à des chèvres. Dans les pays germaniques, sa robe peut être brune, grise, noire, blanche, pommelée, et sa silhouette tient autant de la chèvre, de la biche que du cheval. Pour les artistes français, la licorne est le plus souvent blanche, grise ou fauve, parfois pommelée, avec une tête et un corps proches de celui du cheval, avec une croupe ronde, une longue encolure avec une crinière. Mais elle a toujours sa barbichette et ses sabots fendus. Sa corne, par contre, est inspirée de celle du narval, hein, comme on peut le voir dans la série des Dames à la licorne.
Oui, le narval, donc un mammifère aquatique.
Voilà, un cétacé. À l'époque, les pêches au grand large faisaient qu'on ramenait ces fameuses cornes.
Effectivement, le narval a une grande dent, grande dent qui sort de sa bouche.
Et qui donc a été attribuée à la licorne.
Oui. Comme on l'a évoqué, son existence dépasse celle de l'imaginaire puisqu'elle apparaît également dans les traités de sciences naturelles.
Oui, Michel. Des ouvrages que l'on pourrait qualifier de savants la font cohabiter avec des animaux bien réels. Donc on en a un exemple dans l'Historia Animalum de Conrad Gessner, paru en 1551, ou l'Historia Naturalis des Quadrupedibus de John Johnston en 1552, qui lui présente même 8 espèces de licornes. Enfin, et ça ce n'est pas le moindre, hein, elle est mentionnée dans un article de l'Encyclopédie en 1751. Néanmoins, entre la fin du XVIe et du XIXe siècle, la médecine, et notamment Ambroise Paré, vont démontrer que la corne de licorne n'a pas les vertus qu'on lui attribue, c'est-à-dire un excellent contrepoison, et que ces cornes que l'on trouve dans les églises proviennent toujours de notre narval dont tu as parlé.
D'accord. Alors nous allons écouter maintenant un extrait de la bande originale.
The Legend, un film de Ridley Scott, dans lequel les licornes jouent un rôle important, comme nous allons en parler après. Thank you.
Nous allons reprendre le cours de notre émission, Virginie, avec cette question. La licorne n'a pas disparu de l'imaginaire des artistes à l'époque contemporaine.
Oui, Michel, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'on va la retrouver dans les contes du 19e siècle. On va la retrouver dans les contes des frères Grimm, notamment dans le Vaillant Petit Tailleur, et dans De l'autre côté du miroir de Lewis Carroll, dans laquelle Alice va rencontrer une licorne. Alors, je ne peux m'empêcher de te lire cette rencontre. Hein. La licorne, d'abord, découvre Alice et s'interroge sur ce qu'est cette petite fille. Car c'est ce qu'on lui dit, c'est une petite fille. Voici l'extrait. « J'avais toujours cru que c'était des monstres fabuleux, s'exclame la licorne. Est-ce qu'elle est vraiment bien vivante ?»« Elle sait parler, » dit Aïga d'un ton solennel. La licorne regarda Alice d'un air rêveur et ordonna « Parle, petite fille !» Alice ne put s'empêcher de sourire tout en disant « Moi aussi, voyez-vous, j'avais toujours cru que les licornes étaient des monstres fabuleux. Je n'avais jamais vu de licorne vivante. Eh bien, maintenant que nous nous sommes vus, si tu crois en moi, je croirai en toi. Est-ce une affaire entendue ?»« Oui, si vous voulez. » Donc tu vois là à quel point Lewis Carroll joue avec l'idée de monstre fabuleux, hein, puisque Alice devient le monstre fabuleux et elle croyant à la licorne comme un monstre fabuleux. Toujours des licornes dans la littérature anglaise, hein, notamment dans les romans du monde de Narnia, hein, de C.S. Lewis, qui ont été d'ailleurs adaptés au cinéma, ainsi que dans l'univers de Harry Potter, hein, très, très près de nous, et de son auteur J.K. Rowling. Car n'oublions pas, Michel, que l'une des premières victimes du maître des ténèbres, Voldemort, sera l'une des licornes qui vivent dans la forêt à proximité de l'école des sorciers à Poudlard. Et dans les adaptations cinématographiques du livre, la salle commune de Gryffondor, la maison à laquelle appartient Harry Potter au sein de l'école, est décorée d'une des tapisseries de la Dame à la licorne de Cluny. On ne voit que cela quand les personnages, les acteurs, rentrent dans cette pièce. Les licornes hantent également l'univers du réalisateur Ridley Scott, et tout particulièrement de son film Legend, dont nous venons d'écouter un extrait de la bande originale, un film réalisé en 1985. Ce film est un hommage au conte de fées, dans lequel les licornes sont le symbole de l'innocence et de tout ce qu'il y a de bon dans le monde.
Donc c'est très ambivalent, hein. Ça peut être très méchant et très bon.
À partir du 19e siècle.
Voilà,
hein. La licorne monstrueuse, enfin dangereuse, oui. Méchante, elle est vraiment avant le 15e siècle.
Oui, hein, c'est ça, au Moyen-Âge.
Non. Moyen-Âge, déjà, en fédèle un personnage positif, hein, puisqu'on le voit associé à la Vierge, associé aux jeunes filles. C'est vraiment avant, c'est sous l'Antiquité et la période qui précède le Moyen-Âge.
D'accord.
C'est au Moyen-Âge qu'elle va prendre un aspect positif, et cet aspect cheval, elle le prend vraiment un peu au Moyen-Âge et ensuite au 19e siècle et jusqu'à nos jours où elle est toujours présentée avec un corps de cheval. Et donc ainsi, dans le film de Ridley Scott, hein, où elles sont les symboles de l'innocence, de tout ce qu'il y a de bon dans le monde, et seule une âme pure et innocente peut les approcher. C'est le cas de Jack, hein, le héros interprété par Tom Cruise, alors âgé de 23 ans, qui d'ailleurs explique en ces termes « Tant qu'elles parcourront le monde, le mal ne pourra jamais blesser un cœur pur. » Pourtant, c'est un cœur pur, hein, par un cœur pur, la princesse Lily, l'autre personnage important du film, que le malheur arrive, car la mort d'une licorne livre cet univers fantastique au prince des ténèbres. Ridley Scott fera une citation à Legend dans un de ses films les plus connus, Blade Runner, dans lequel l'un des personnages, le policier, hein, laissera un origami en forme de licorne, signifiant ainsi aux protagonistes qui sont en danger son passage. Et c'est aussi pour eux, il ne va pas les arrêter, donc il leur donne la possibilité de fuir, donc un geste bon associé à la licorne. Voilà, Michel, tu vois, nous n'avons fait qu'effleurer le mythe, hein, car il est puissant, il est profond, il y aurait beaucoup de choses à dire. Et je voudrais quand même souligner qu'à l'heure où les licornes sont souvent devenues de petits jouets sympathiques et colorés pour les enfants, il faut rappeler qu'elles sont tout sauf mièvres, hein, qu'elles sont un peu aujourd'hui. Et qu'à l'image des magnifiques licornes qui galopent dans le film de Ridley Scott, hein, elles sont la porte d'entrée à des interprétations riches et à des imaginaires qui ne le sont pas moins.
Alors, nous arrivons à la fin de cette émission, Virginie, mais je pense que la matière est tellement dense qu'on pourra en faire peut-être d'autres lors d'une des prochaines émissions. Alors, n'oubliez pas, tous les mercredis, les samedis, un cheval dans les studios de CFM Radio 107.9. Alors, en l'occurrence, c'était plutôt une licorne. Dans le studio, David, il y a vraiment plein d'animaux. L'animal est également présent sur CFM Villefranche-de-Rouer 90.2, les mercredis et les samedis à 10h. À la semaine prochaine.
À bientôt.